je suis très, très sensible aux crises actuelles que nous traversons, à la crise de l'Europe, qui est plus qu'une crise, c'est une interrogation endémique, une mise en question permanente, et tout particulièrement des valeurs actuelles des démocraties. Mais je suis pas du tout une pessimiste non plus. Je dis plutôt que je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais une pessimiste énergique. Et j'essayais de voir quelles sont les solutions, sinon définitives, du moins actuelles et pragmatiques, qu'on peut apporter, nous, les gens de culture, comme on dit, les intellectuels. Dans cette optique, la question que je vais aborder, c'est la question de la révolte. Est-ce que la révolte est possible? Qu'est-ce que ça veut dire de se révolter aujourd'hui? Et comment dépasser les vieilles formes de révolte qui ont pris souvent la forme de mouvements enthousiastes et inspirés de bonnes valeurs, mais qui se sont effondrés dans des totalitarismes? Et ma réponse, c'est que la meilleure révolte, c'est la mise en question des valeurs, le renouvellement de nos idéaux et le soin de la singularité humaine, de ce que chacun de nous a de plus créatif, de plus intime, d'où l'importance des sciences humaines, de la refondation de l'humanisme et de la psychanalyse à l'intérieur de tout cela. Donc ça, ce sera le thème de ma conférence, qui va d'ailleurs toucher à une question brûlante aujourd'hui, ce que j'appelle moi les nouveaux étrangers. Tous ceux qui se sentent exclus du système démocratique et du système de la globalisation, et notamment tous ces jeunes de nos quartiers qui deviennent djihadistes.
Ça doit avoir un retentissement assez particulier en Bulgarie parce que, comme vous savez, nous avons eu nos étés et hivers de la révolte. Tout dernièrement, c'était tout un été, toute une année que les gens étaient dans les rues en protestant, mais finalement, ça n'a pas abouti à grand-chose.
Mais écoutez, c'est très très important ce que vous me dites parce que d'une part, je me suis malheureusement ou heureusement beaucoup détachée de la réalité bulgare, je ne connais pas tous les détails, mais en même temps, mon cœur tremble toujours quand j'entends parler de la Bulgarie et donc je savais un peu qu'il se passait ces mouvements-là. Mais je n'ai pas de vision très concrète sur les différentes revendications et sur les projets qui s'opposent à la crise actuelle. Mais je suis, comment dire, à l'unisson un peu avec la manière d'une certaine culture de l'Europe de l'Est, héritière de l'orthodoxie et aussi du communisme, qui est une culture qu'on dit buntovna, bunt. Et le bunt, contrairement à la révolte telle que qu'on essaye de la comprendre maintenant, nous, en Europe ou même dans le continent américain, dans les universités, etc., le bunt suppose une ras-le-bol, un rejet des normes, une casse. On ne veut pas, on est contre. C'est une transgression, mais il n'a pas de projet. Et ce que nous essayons de faire maintenant, c'est comment on peut gouverner tout en rejetant la gouvernance actuelle. Donc ce n'est pas des compromis, c'est des appels à l'innovation. Et c'est le plus difficile. La révolte, contrairement au bunt, étymologiquement veut dire on revient vers le passé, on se dégage du passé et on ouvre de nouvelles perspectives. On tourne la page, mais il y a une page. Et souvent, moi, j'ai le sentiment que quand on s'ubuntuve, Bulgarie, on n'a pas de nouvelles pages.
En vous entendant, je crois que vous rejoignez un peu votre collègue Umberto Eco, qui, lui, il y a déjà peut-être une dizaine d'années, dans une conférence sur les limites de l'Europe, avait formulé la thèse que être européen, c'était précisément savoir se mettre en cause face à d'autres cultures. Vous connaissez la culture américaine aussi très bien. Peut-être qu'il y a d'autres cultures dans le monde qui se mettent moins en cause. Est-ce que vous pensez que les Européens nous sont plus enclins à nous remettre en cause tout le temps?
C'est très très juste ce que vous dites et ça tombe complètement à pic dans mes préoccupations. Cela fait des années que je connais bien sûr Umberto Eco et nous sommes sur la même longueur d'onde, mais moi je suis une militante pour la fierté de l'Europe et surtout dans cette situation où l'Europe, le moins qu'on puisse dire, ne va pas bien. Pourquoi je suis fière? Parce que je pense que nous sommes la seule civilisation au monde, et je pèse mes mots, je suis suis pas du tout chauviniste, etc. Mais la seule civilisation au monde pour laquelle l'identité n'est pas un culte, mais une mise en question. Ça vient du côté de la pensée grecque et le dialogue platonicien et même avant les présocratiques. C'est un vaste mouvement de pensée où les valeurs sont des révélations et non pas des dogmes. Ça passe par la tradition juive et la mise en question des textes sacrés, par toute l'interprétation rabbinique. Ça passe par, évidemment, la tradition chrétienne qui, avec toutes les horreurs qu'on lui connaît, les pogroms, les croisades, etc., a néanmoins cette pensée de l'interrogation que je cite souvent de saint Augustin, pour lequel il n'y a une seule patrie, le voyage, et moi je suis devenue question à moi-même, dit-il. C'est ça que les Lumières européennes ont hérité de cela, et nous avons aggravé, accentué cette culture de la mise en question des valeurs, pour parfois en oubliant la tradition spirituelle. Et il fait partie aussi de l'actualité de se pencher sur la tradition religieuse et de la mettre en question, mais sans la diaboliser, sans le rejeter. Et je pense que ce qui fragilise l'Europe, à savoir ce désir de décortiquer, de mettre en question, je pense que ce n'est pas un archaïsme. On est en avance des autres qui ne se posent pas ces questions, qui vont rencontrer d'autres civilisations, qui vont rencontrer les extrémismes et qui sont démunis. Ils ont besoin de nous. Je voulais vous donner simplement un exemple. Je vais beaucoup en Chine et je suis très, très amie avec l'université Diaotong, qui est l'université de Shanghai. Et le directeur m'avait dit, il y a quelques années, je voudrais créer un institut des pensées et des spiritualités chinoises et européennes. Et je lui dis pourquoi ? Il dit, mais parce que nos jeunes gens rencontrent des conflits personnels et sociaux, et ils ne savent pas comment se défendre et comment rencontrer l'autre. Et c'est vous en Europe qui avez une pensée qui lui permet de se mettre en question et de mettre en question l'autre pour vivre ensemble. Je trouvais ça extraordinaire. Je pensais que ça n'allait pas avoir de suite pratique. Eh bien si, il vient de créer un institut qui s'appelle Institute for Advanced European Studies et je suis devenue la présidente d'honneur. Mais je suis très contente qu'ils comprennent la fécondité latente de la culture européenne. On sait que la Chine est loin d'appliquer cette pensée, mais c'est déjà pas mal qu'on pense dans ces directions.